Voici les deux textes liturgiques pour ce premier dimanche de l'Avent, l'épître de saint Paul aux Romains. Mes frères, l'heure est venue de nous réveiller, puisque le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Comme en plein jour, marchons avec honnêteté, non pas dans les excès de table, dans l'ivrognerie, dans les impudicités, les dissolutions, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre détresse des nations à cause du bruit confus de la mer et des flots. » Les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec une grande puissance et une grande majesté. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, lorsqu'ils commencent à produire leurs fruits, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Donc cette semaine, messe à 7h30 tous les matins. Attention, vendredi et samedi, je ne serai pas là parce que je vais à Andorre pour la petite mission mensuelle là-bas. Donc pas de messe vendredi et samedi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, qu'est-ce que nous demande l'Église en ce début d'année ? De nous réveiller. Réveillez-vous. Début de l'épître de saint Paul aux Romains. Se réveiller, pourquoi ? Parce que le jour du Seigneur arrive. L'Avent, c'est le début de l'année liturgique, c'est l'annonce déjà du mystère de l'Incarnation. Et c'est le moment de se réveiller, parce que pendant le mystère de l'Incarnation, c'est la miséricorde qui s'applique. L'Incarnation, c'est quoi ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui devient homme. Deuxième personne de la Sainte Trinité qui accepte de prendre une nature humaine pour pouvoir mourir sur la croix. Donc l'incarnation qui est déjà annoncée aujourd'hui, en ces débuts de l'Avent, nous amène au mystère de la rédemption, le cycle de Pâques. Avec la rédemption, c'est la mort sur la croix, là c'est la justice. En ce moment, c'est la miséricorde. Donc il faut se réveiller, et qu'est-ce qu'il faut faire une fois réveillé ? Il faut nous mettre en route, et commencer à chercher la crèche. Pour ça qu'on peut déjà, dès le premier dimanche de l'Avent, mettre les petits personnages de la crèche. J'ai trouvé cette très jolie crèche ancienne. Et donc j'ai mis les petits personnages déjà un peu là où je peux, parce que je n'ai pas beaucoup de place pour faire une vraie crèche. Mais il faut se mettre à la suite de ces petits personnages et aller chercher la crèche. Attention, deux choses. D'abord, vous voyez ces personnages, ils ont tous en général quelque chose dans la main. On n'arrive pas les mains vides devant notre Seigneur. Deuxièmement, c'est le Père de l'Église qui nous fait remarquer, pour entrer dans la grotte, il faut se baisser. Donc première condition pour trouver notre Seigneur, c'est l'humilité. La crèche n'est pas un lieu pour les gens orgueilleux. C'est pour ça que le monde moderne ne peut pas supporter la crèche. La caractéristique du monde moderne, je vous l'ai déjà souvent dit, c'est l'orgueil et la haine. Au contraire, le catholique, c'est quelqu'un qui pratique la vertu de charité. C'est quelqu'un qui pratique la vertu d'humilité. Alors il faut donc, en ce début d'année nouvelle, se réveiller. Pour un catholique, l'année commence aujourd'hui. Et que faire, nous dit saint Paul. Saint Paul va nous donner immédiatement deux conseils. D'abord, il faut se réveiller. Se réveiller de quoi ? Du sommeil. Qu'est-ce que représente le sommeil pour les pères de l'Église ? Le sommeil, c'est un sommeil spirituel, ce qu'on appelle l'assédie, la paresse. À cause du péché originel, nous sommes tous très paresseux pour suivre notre Seigneur. Quand il s'agit de faire notre volonté propre, on est plein d'énergie. Mais quand il s'agit de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, on est toujours très fatigué. Il faut faire la sieste tout le temps. Donc le Saint-Paul nous demande de nous réveiller. Conséquence de ce réveil, se réveiller du sommeil, du sommeil de la mort, mais du sommeil de la mort, ça veut dire du sommeil de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est le péché. Pour cela que saint Paul explique tout de suite dans l'Épître aux Romains, il faut se réveiller pour se sortir des œuvres des ténèbres et pour se revêtir des armes de lumière, dit-il. Sortir des œuvres de ténèbres, les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est le démon. Et ses pompes et ses œuvres. Donc c'est sortir du péché pour une bonne confession. Et se revêtir des armes de la lumière c'est quoi? La lumière, c'est la grâce sanctifiante. C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui veut faire de notre cœur, de notre âme, une petite crèche. Et donc la première chose à faire, c'est ça. Enlever l'obscurité et remplacer l'obscurité par la lumière. Est-ce qu'il est possible dans une même âme, d'avoir à la fois l'obscurité et la lumière? C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir dans une pièce l'obscurité et la lumière, c'est l'un ou l'autre. Ou les volets sont fermés, on ne voit rien, on est dans l'obscurité. Ou on ouvre les volets pour que la lumière du soleil puisse pénétrer dans la pièce, et à ce moment-là, on est dans la lumière. On ne peut pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres, faire un choix. Eh bien, Saint Paul nous demande dès aujourd'hui, dès maintenant, de faire ce choix. Il faut nous réveiller, sortir du péché et faire entrer la lumière de la grâce. D'où la nécessité, parfois, début d'année, je vous en ai déjà parlé dimanche dernier, je crois, en ces débuts d'année, peut-être la nécessité de faire une bonne confession générale pour chacun d'entre nous. Pour l'année, en fonction des besoins, on n'est pas strictement obligé de faire une confession générale en début d'année, mais il est bon de le faire. Pourquoi? Eh bien, l'Évangile nous avertit, attention, parce que le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans la crèche de Bethléem, mais attention, il arrive dans la crèche de Bethléem, il va se mettre sur le bois de la crèche, et le bois de la crèche représente le bois de la croix. C'est le même bois. La crèche amène au calvaire. Première étape, la crèche de Bethléem. Deuxième étape, le calvaire. Troisième étape, le ciel. Donc notre Seigneur va venir à la fin des temps pour nous juger. Il va déjà commencer à nous juger le jour de notre mort par jugement particulier. Dans l'oraison d'aujourd'hui, l'Église insiste, met les barres sur les T, les points sur les I. Le péché, nous dit l'oraison d'aujourd'hui, il y a une très belle phrase dans l'oraison d'aujourd'hui, le péché nous menace de péril imminent. Le péché nous menace de péril imminent et à cause de ces périls imminents, eh bien, il nous faut utiliser la miséricorde du bon Dieu et être sauvés par sa rédemption. Quels sont les périls imminents du péché? Mais on revient sur le texte de saint Paul. Les périls imminents du péché, les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort, justement, la mort spirituelle. Et la pire des morts spirituelles, c'est quoi? C'est pas la mort physique, parce qu'on va tous y passer. C'est la mort éternelle, le passage du temps à l'éternité en état de péché mortel, la chute en enfer. Donc le péril imminent qui est une conséquence directe du péché, si on ne veut pas sortir du péché, c'est l'enfer. Pour ça que le bon Dieu nous prévient dans sa miséricorde, il nous dit attention, puisque vous savez qu'à cause du péché originel, on est tous tentés de suivre la voie large qui mène en enfer, utilisez la miséricorde. C'est pour ça que je viens comme un petit enfant, comme un petit bébé, je me cache dans la crèche de Bethléem, venez, la porte est ouverte. Pour utiliser justement cette miséricorde, afin que nous puissions arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut s'abaisser et se mettre à genoux. L'homme moderne, il refuse de s'abaisser, il refuse de se mettre à genoux. Évidemment, il ne peut pas trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on s'abaisse, on se met à genoux pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ et on offre ce que le bon Dieu veut que nous offrions. En ce début d'année nouvelle, il est temps peut-être de faire un peu un examen de conscience. Quel est le point sur lequel je dois travailler pendant ce temps de l'Avent? Certes, le temps de l'Avent n'est pas un temps liturgique de pénitence comme le temps du carême. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeûne et d'abstinence pendant le temps de l'Avent, sauf le 7 décembre, pour la vigile de l'Immaculée Conception, il y a jeûne et abstinence. Également pour les quatre temps, quatre temps d'Avent, je vous préviendrai pour ça. Et puis pour l'avant-veille de Noël. Le 23 décembre. Et bien sûr, abstinence tous les vendredis, comme tous les vendredis de l'année. Et donc, il faut absolument comprendre ces choses. Donc, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie de tous les jours? Quel est le point particulier sur lequel je dois changer pendant ce temps d'avant? Peut-être une vertu particulière à pratiquer? Peut-être un défaut particulier à éviter? Le plus simple, parce qu'on est très mauvais juge de soi-même, c'est de demander à quelqu'un qui vous connaît très bien. Pour les gens mariés, c'est facile. Donc l'époux, en début d'avant, doit demander à son épouse, il vaut mieux attendre un jour où elle est de bonne humeur, sinon on n'a pas une bonne réponse. Donc l'époux va demander à son épouse, ma petite chérie, quel est le point sur lequel tu voudrais que je travaille? Et puis, elle va vous dire sans doute, il y en a plusieurs, lequel? Eh bien, elle va vous en proposer un. Évidemment, si vous prenez les choses comme ça, elle sera obligée après qu'elle vous ait répondu, elle va vous dire, et toi, est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais que je travaille? Oh, ben, il y en a aussi plusieurs. Eh bien, donne-moi un. Et je vous assure que quand les gens commencent à comprendre le pourquoi de l'avant, ça change tout. Je vais vous donner un exemple. Assurez-vous, je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas donné de lieu. L'exemple d'une famille. 3 enfants. Mariés depuis 15 ans. Il y a les dos dans le gaz, comme on dit. Les deux époux avaient construit littéralement, en ces 15 années, une espèce de mur de glace entre eux. Ils étaient toujours ensemble, pratiquaient leur foi tous les deux, ils se confessaient, ils communiaient, mais je me rendais bien compte, le prêtre se rendait bien compte qu'il y avait vraiment des problèmes. Ils étaient encore ensemble, mais de loin, ils n'étaient plus amoureux l'un de l'autre, ça se voyait tout de suite. Ça se voyait tout de suite, et des petits détails. Le prêtre avait remarqué, par exemple, une promenade de famille. Un dimanche après-midi, il était avec la famille. Et puis, le mari essayait de prendre la main de sa femme. Il l'a repoussé. Ça en dit long. Eh bien, après le serment du prêtre, l'époux a demandé à son épouse, quel est le point sur lequel tu souhaiterais que je travaille pendant l'avant? L'épouse lui a dit, je te l'ai déjà dit, plusieurs fois en 15 ans. Tu ne m'as jamais écouté. Pourquoi veux-tu que je te répète les choses maintenant? Et l'époux a insisté. Rappelle-moi, je vais essayer de faire quelque chose. Et l'épouse lui a dit, voilà, il y a un point qui m'agace depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je te le dis. Tu fumes, ça ne me gêne pas. Tu fumes dans la maison, ça ne me gêne pas non plus. Mais tu fumes dans la chambre à coucher, j'ai horreur de ça. Je te demande de faire cet effort de ne pas fumer dans la chambre à coucher. Je sais que tu ne vas pas le faire, mais je te le dis quand même. Et le mari s'est dit, elle ne me demande quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, je vais la prendre au mot et je vais faire ce qu'elle me demande. Il a arrêté de fumer dans la chambre à coucher. Au bout de quelques jours, l'épouse s'est bien rendue compte. Il fait un effort. Mince, moi je vais être obligé de faire un effort aussi. Elle n'a pas eu besoin de demander à son mari quel était l'effort sur lequel elle devait travailler parce qu'elle le savait très bien. Il y avait un truc qui irritait son mari depuis 15 ans. Elle le savait très bien. Le mari n'aimait pas voir son épouse en pantalon. Et donc sans rien dire à son épouse, elle a commencé à se mettre en robe. Le mari rentre du travail et trouve son épouse en robe. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, ça a suffi à sauver le ménage. Parce que les relations entre elle et lui ont complètement été modifiées et il est retombé amoureux de son épouse. Elle est retombée amoureuse de son époux. Ça a changé en plus, évidemment, totalement, la relation, non seulement les relations entre les époux, mais également les relations entre les parents et les enfants. Et la famille a été complètement transformée simplement par un petit détail. Ils avaient compris qu'il fallait profiter du temps de l'avant pour changer quelque chose. Bon, c'est un exemple que je vous ai donné, mais je pense que c'est important d'essayer de réfléchir en ces débuts d'avant. L'avant, ce n'est pas une époque liturgique de plus qui commence. Non, c'est le début de l'année, le temps de la miséricorde. Et c'est pour cela, vous verrez dans les oraisons, dans les réponses du temps de l'Avent, surtout dans le bréviaire, pratiquement pas tous, mais presque tous les répondent, une bonne partie des oraisons aussi, font appel à la Sainte Vierge. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il ne vient pas directement du ciel. Il va passer par quelqu'un pour venir à nous. Et ce quelqu'un par lequel il passe, c'est sa mère. Il a voulu prendre une mère humaine. Un mystère incroyable. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui choisit une personne d'une nature infiniment inférieure à la sienne, puisqu'il est Dieu et qu'elle a que l'humanité, pour demander à cette femme choisie de toute éternité de devenir sa mère. L'Immaculée Conception. Et c'est pas pour rien que l'Église a justement choisi le temps du carême, le temps de l'Avent pour placer la fête, la grande fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Alors, mes bien chers frères, passons par notre Sainte Vierge Marie, puisque c'est par elle que notre Seigneur a pris son humanité. Et demandons tous, c'est valable aussi pour moi, demandons tous à Notre-Dame de nous aider à choisir le point sur lequel je dois travailler. Encore une fois, soit une petite faiblesse que nous avons sur laquelle il faut travailler, c'est peut-être un détail. Rappelez-vous l'histoire que je viens de vous noter. Tout a commencé par un petit détail. Il était habitué, malgré le fait que ça ne plaisait pas à son épouse, à fumer dans la chambre. Eh bien, ce simple petit détail a ouvert la porte à beaucoup, beaucoup de grâces. Pourquoi? Parce que la plupart des grâces que le bon Dieu veut nous donner sont des grâces conditionnelles. Elles sont verrouillées en quelque sorte. Et le bon Dieu est prêt à débloquer toutes ces grâces à condition qu'on ouvre la porte. Mais si on n'ouvre pas la porte, les grâces, elles restent à l'intérieur du bâtiment, on ne peut pas les utiliser. C'est comme quelqu'un qui meurt de faim, il faut qu'il rentre dans la pièce où il gardait et conservait la nourriture. S'il reste à l'extérieur du bâtiment, on ne peut pas se nourrir. Alors, prenez soit un petit défaut sur lequel il faut travailler, soit une vertu particulière sur laquelle il faut travailler. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de spirituel, ça peut être quelque chose qui est à la fois spirituel et à la fois matériel. Ça dépend beaucoup des gens. Donc, utilisez ce temps de l'Avent. Réveillons-nous. C'est voilà pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, demandons au bon Dieu ces grâces dont nous avons besoin. Il faut arriver, c'est Saint Ignace de Loyola qui disait à ses moines, le plus important, c'est la connaissance de soi-même. Connaissance de soi-même. Connaissance de soi-même, ça veut dire quoi? Connaître nos limites, connaître nos faiblesses. Pour pouvoir justement ouvrir les portes de notre âme pour que la miséricorde s'exerce. La miséricorde, elle va éclater littéralement avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre. C'était Saint François d'Assise qui avait demandé dans ses prédications, il disait aux paysans qui venaient assister à ses messes, il disait le jour de Noël, il faut donner un double picotin à l'âne, c'est ce qu'il disait. Double ration d'avoine à l'âne, pardon, à cause de la fête de Noël. Alors, si Saint François demandait ça pour les ânes, qu'est-ce qu'il demande pour nous? Eh bien, ça manifestait justement la miséricorde. C'est que c'est Saint François d'Assise qui a commencé les crèches. La crèche de Noël, c'est pas une habitude qui existait avant la crèche de Noël, les santons, si vous n'existez pas avant le XIIIe siècle. C'est Saint François d'Assise qui a commencé à répandre cette coutume dans l'Église. Alors il nous faut, mes bien chers frères, avec beaucoup d'humilité, essayer de trouver notre faiblesse. On a tous une faiblesse. Le problème, c'est qu'on connaît en général très bien la faiblesse des gens autour de nous, on connaît très mal la nôtre. Et là, il faut avoir le courage de se regarder dans une glace et trouver notre faiblesse. Hein. En général, pour trouver notre faiblesse, ceux qui ont fait les exercices de Saint Ignace savent bien ces choses-là, mais j'explique pour tous ceux qui m'écoutent, surtout sur Internet, notre faiblesse, en général, elle dépend de notre tempérament. On a tous un tempérament. Un tempérament, c'est une façon de réagir. Tempérament, il est avec vous depuis votre création jusqu'à votre mort. On ne peut pas changer son tempérament. On peut changer son caractère. Un seul caractère, il faut travailler dessus. On ne change pas son tempérament. Il y a des gens qui ont un tempérament colérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réagissent très vite quand il y a un problème. Et quand ils réagissent, la réaction va durer. Ces gens ont naturellement, sont en général naturellement des chefs. Bon, si une épouse votre époux est un colérique, en général, vous n'avez pas de problème. Bon, il ne sera pas un paresseux qui va se mettre au lit toute la journée. Non, il va travailler. Si vous prenez un deuxième boulot pour nourrir la famille, il prendra un deuxième boulot pour nourrir la famille. Parce que c'est des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font. C'est des gros actifs. Ils ont un énorme défaut. Ils ont un gros défaut, c'est pour ça qu'on appelle les colériques. Ils sont impatients. Ils sont impatients parce qu'en général, ils exigent que les gens autour d'eux travaillent aussi vite qu'eux, ce qui n'est pas possible. Et donc, un colérique, il faut qu'il travaille sur la patience. Puis il y a les sanguins. Le sanguin, il réagit très vite aussi lorsqu'il y a un problème, mais la réaction ne dure pas. Au bout de quelques jours, pof, on oublie tout. C'est un caractère très superficiel. C'est pour ça que j'appelle ça le tempérament papillon. Le tempérament papillon, c'est un papillon qui va sur une fleur, il bute une fleur, hop, sur une autre fleur, et hop, sur une autre fleur, puis il va de fleur en fleur comme ça, puis finalement, il ne fait jamais rien à fond. Donc, en général, les gens qui sont sanguins, ils doivent surtout travailler. Les sanguins ont en général un défaut, le mensonge. 9 fois sur 10. Le mensonge, pourquoi ? Parce qu'ils font toutes les choses un peu de façon toutes les choses de façon un peu superficielle, et du coup, ils ont tendance à jamais finir ce qu'ils font. Et donc, ils mentent pour essayer de cacher le fait qu'ils n'aient pas fini ce qu'ils devaient faire. Et donc, en général, les gens qui sont sanguins, au début de l'avant, ils doivent travailler sur le mensonge. Après, il y a le mélancolique. Certainement le tempérament le plus riche. Le mélancolique, c'est le penseur. Il prend du temps avant de décider. Quand il y a un problème, il va prendre du temps avant de solutionner le problème. Mais une fois qu'il a pris une décision, c'est dur. C'est des gens qui sont des penseurs. Le mélancolique n'a pas de problème du tout pour prier. Mais le mélancolique a un énorme problème. C'est comme ça qu'on reconnaît tout de suite les mélancoliques. Ils boudent. Quand monsieur boude, alors là, attention, ça peut durer. Il sait en général même pas pourquoi il boude, mais il boude. Et puis au bout d'un certain temps, paf, la bouderie disparaît, il ne sait même pas pourquoi. Donc la bouderie, c'est le signe du mélancolique. Et dans une famille, c'est terrible. Un monsieur, par exemple, qui est un époux qui est mélancolique, il peut rendre malheureux la femme et les enfants pendant ces périodes de bouderie. Donc c'est surtout là-dessus qu'il doit travailler. Et enfin, le dernier tempérament, c'est ce qu'on appelle le tempérament flegmatique, qui est assez rare en France. Tempérament flegmatique, c'est les personnes qui prennent du temps pour prendre une décision, mais la décision, ça ne dure pas. Et donc, le flegmatique, il doit travailler surtout, évidemment, sur la paresse, puisque c'est par là que le démon pénètre dans son âme. Et le démon, quand il cherche à pénétrer dans une âme, il ne va pas prendre la grande porte, parce qu'il sait qu'elle est protégée, qu'elle est gardée. Il va prendre la petite fissure dans le mur qui n'est pas surveillée. Et c'est pas là qu'il va rentrer. Donc en ce début de... Encore une fois, d'année liturgique, en ce début d'avant, essayons tous de faire un examen de conscience. Quel est le point sur lequel je dois travailler? Qu'est-ce qui ferait plaisir au bon Dieu? Donc il faut le lui demander. Il faut avec humilité savoir s'agenouiller devant bon Dieu, devant la Sainte Vierge. On ne s'agenouille pas devant la Sainte Vierge strictement parlant, parce qu'elle n'est pas Dieu, mais on s'agenouille devant notre Seigneur Jésus-Christ, on vénère la Sainte Vierge Marie, on leur demande à tous les deux, quel est le point sur lequel je dois travailler? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël? Ce n'est pas nous qui choisissons ce qui doit être offert comme cadeau à notre Seigneur Jésus-Christ, enfant dans la crèche de Bethléem. Il faut demander à notre Seigneur, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous souhaitez que j'apporte avec moi le jour de Noël? Quand je viendrai me mettre à genoux devant vous le jour de la naissance, de votre naissance, le jour de Noël. Et si vous demandez avec humilité, vous entendrez la réponse du bon Dieu. Voilà, mes bien chers frères, voilà comment commencer l'année liturgique de bon pied. Ne vous découragez pas, essayons de voir l'étendue du désastre, comme on dit, on a tous à travailler là-dessus, et tous profiter encore une fois, ne pas oublier. Si je pense au point peut-être le plus important, ne pas oublier que le temps d'avance est le temps de miséricorde. Le bon Dieu donne plus de grâce pendant les temps de pénitence. C'est pour ça qu'il y a l'ornement violet, symbole de la pénitence. C'est pour ça que les dimanches d'avant, on enlève les fleurs, il n'y a pas de fleurs sur l'autel. Justement pour nous marquer que c'est un temps de pénitence. Certes, il n'y a pas toutes les pénitences imposées pendant le temps de carême, c'est un degré de pénitence qui n'est pas le même, mais c'est quand même un temps de pénitence. Qui dit temps de pénitence ? Dit temps de grâce. Et comme les grâces passent par la très sainte Vierge Marie, je vais en finir avec cela, comme les grâces passent par la très sainte Vierge Marie, priez la Sainte Vierge pendant le temps de l'Avent. Dites bien votre chapelet tous les jours, pour pouvoir justement être ferme, être fort, parce que si le démon va pénétrer dans une âme, s'il voit que la très sainte Vierge Marie est reconnue comme reine dans cette âme, il sait que le roi est pas loin. Alors entre le roi et la reine dans l'âme, notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère dans notre âme, le démon rentre même pas dans cette âme, il sait qu'il va prendre des coups. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre, à méditer toutes ces choses, pour ne pas gaspiller toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour nous pendant ce temps d'avant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.